Voilà, ben ce matin, j'aimerais vous apporter la suite du message de la semaine dernière. Si vous n'avez pas eu la chance d'être avec nous pour notre lancement dans notre nouveau local, vous pouvez l'écouter en ligne, en fait, et ça s'intitulait « Une place dans la maison ». Et pour résumer, en gros, nous avons vu que dans la maison de Dieu, il y a une place de préparer pour toi, si tu mets ta foi en Jésus. Et il n'y a pas de place limitée, en fait. On a vu qu'il y avait de la place en masse dans la maison de Dieu. Et ce qui veut dire qu'il y a une place pour toi, tu as juste à répondre à cette invitation. J'ai montré aussi que il y avait assez de place pour toi. S'il y avait assez de place pour toi, il y en avait aussi pour les autres. Et que la responsabilité de ceux qui sont dans l'Église, c'est de préparer la place pour ceux qui n'y vont pas, pour découvrir le message de l'Évangile. Et le message de ce matin est en continuité avec cette pensée-là, parce que je veux t'encourager à prendre ta place dans la maison de Dieu, à prendre une part active dans l'Église. Et pour que tu comprennes le rôle que tu as à jouer dans l'Église, il va falloir commencer par le début. Imagine un gérant de McDonald's, okay, il engage un jeune, nommons-le Boris, par exemple. Il l'engage, mais sans lui dire à quel poste, pour quel poste il l'engage. Okay? Je te garantis que la première journée de travail de Boris va pas vraiment se passer très bien. Okay? Soit il va être frustré parce qu'il va avoir l'impression de perdre son temps, il sait pas trop quoi faire, donc il perd son temps, voyons, je vais aller chez moi. Soit il va se mettre en boule dans la salle de bain parce que il sait pas trop, là, c'est le chaos, puis les gens, eux, ils savent où ils vont, mais lui, il sait pas quoi faire. Ou soit il va essayer de prendre certains postes qui ne sont pas, qui est pas le sien, en fait. Il va arriver proche de la caissière qui est là depuis 15 ans, bien installé. Il va se refaire retourner de bord. Il va essayer de cuire des boulettes, mais il va les faire brûler parce que c'est un mauvais cuisinier. Donc, pour savoir ce qu'il doit faire, Boris doit savoir qui il est. Est-ce que c'est un caissier, un cuisinier, ou est-ce que c'est un assistant gérant? Ça va tout changer. Si tu sais pas qui tu es selon la parole de Dieu, comment est-ce que tu peux savoir le rôle que tu as à jouer dans l'Église et dans la vie? Tu as besoin de savoir qui tu es pour savoir ce que tu dois faire. Et c'est à partir de trois images qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, utilisées par l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, que nous allons découvrir qui nous sommes individuellement, mais aussi en tant qu'Église. La première image utilisée par Pierre, c'est celle de l'Église comme étant une maison spirituelle. Et dans cette image, tu es une pierre. L'Église est une maison spirituelle. Et au centre de cette image, il y a Jésus, la pierre angulaire. Peut-être que tu as déjà entendu cette expression-là, la pierre d'angle. Une pierre d'angle, c'est une pierre qu'on mettait finalement à la jonction de deux murs dans un bâtiment. Et cette pierre est vraiment cruciale pour la solidité du bâtiment. Et Jésus est représenté par cette pierre précieuse. La deuxième image que l'apôtre Pierre utilise pour représenter l'Église, c'est celle d'un groupe de prêtres qui offrent des sacrifices où Jésus est le grand prêtre sacrificateur. Et la troisième image utilisée par Paul, c'est celle de l'Église comme étant un corps. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Tu es un membre, l'Église est un corps, et au centre de cette image, Jésus, il est quoi? Il est la tête de l'Église. Et on va décortiquer ces trois images ensemble dans les prochaines minutes, mais pour résumer, je vais demander à mon compagnon. voilà. Tu voudrais-tu le maintenant, puis tu rapportes le sac. Alors, en gros, qui es-tu? Premièrement, tu es une pierre, OK, c'est bon. Tu es une pierre. Deuxièmement, tu es un prêtre, OK. Et troisièmement, tu es une partie du corps. Bon, fait que nos trois P sont ici. Merci, Julie. Nos trois P sont ici. Et je sais que, comme ça, là, ça a l'air ni gratifiant, ni très inspirant de savoir que tu es une pierre ou un orteil ou une main. Mais restez avec moi, OK? Je vous garantis que ça vaut la peine. C'est bon? Prions ensemble pour que l'Esprit de Dieu nous parle par sa parole. Seigneur Jésus, nous sommes ouverts. On veut écouter, Seigneur, ce que tu as à nous dire aujourd'hui. C'est ta parole qui parle, Seigneur. On vient avec humilité, on vient avec soif aussi, avec attente, Seigneur, avec écoute active, parce que je sais que tu as une parole pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous te glorifions. Amen. Voyons ensemble la première vérité ce matin Tu es une pierre vivante. Et dis-le à ton voisin. Tu es une pierre vivante. Allez, allez. En passant, ça tombait très bien qu'on soit dans le temps de l'Halloween, parce que j'avoue que j'aurais pas été capable de trouver ces choses-là, donc c'est ça vraiment, ça vient. Il est pas ensanglanté, en plus, ça tombe bien aussi, parce qu'il y en avait d'autres, donc il fallait s'abstenir. Donc, tu es une pierre vivante. On lit ceci dans 1 Pierre 2, 4 à 6. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes. Et plus loin, dans ce passage-là, ça va être dit la pierre angulaire, comme j'ai dit tantôt, la pierre d'angle. Mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme j'ai dit la semaine passée, ça veut dire que non seulement tu as une place dans la maison de Dieu, mais en plus, tu es toi-même une partie de la maison. C'est incroyable. Une pierre vivante formant la maison. Si tu fréquentes l'Église depuis plusieurs années, tu as sûrement déjà entendu dire que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est les personnes qui la constituent. Et c'est vrai. C'est vrai, l'Église, c'est toi et moi, des pierres vivantes. Nous formons ensemble une maison spirituelle. Et je veux souligner deux éléments par rapport à cette image-là. Premièrement, une pierre toute seule, c'est juste une pierre. C'est pas tellement intéressant ou ça sert pas à grand-chose, entre guillemets, à part... C'est lourd. Non, hein, bref, je vous laisse imaginer toutes sortes de choses. Mais quand on l'assemble avec d'autres pierres, ça peut former des constructions extraordinaires. On a juste à penser à la Grande Muraille de Chine. Elle s'étale sur plus de 6700 kilomètres. Une pierre à la fois. Ou le Machu Picchu, la cité Inca construite dans les montagnes à 2000 mètres d'altitude. Une pierre à la fois. Ou les pyramides égyptiennes, des fois qui dépassent 100 mètres et plus, une pierre à la fois. Et c'est avec chaque chrétien, une pierre vivante à la fois, que nous pouvons devenir solides. Nous devenons une construction magnifique que Dieu a bâtie, son Église, toujours active 2000 ans après Jésus-Christ. C'est incroyable, incroyable. Quelle belle construction! Et l'autre chose que je veux souligner, c'est l'adjectif que Pierre emploie. T'es pas juste une pierre, ok? Donc, t'es pas juste une pierre comme ça déposée ici. Tu es une pierre vivante. J'ai dit qu'il y avait une place pour tout le monde dans la maison de Dieu, mais ta place, c'est pas juste une chaise. T'es pas juste là pour remplir une chaise, mais pour bien plus. Tu es une pierre vivante. Ta place dans la maison ne devrait pas être assise, elle devrait être debout en train de servir Jésus. Je sais pas si certains se souviennent de la madame des dépanneurs Couche-Tard il y a quelques années. La madame en carton grandeur nature à l'entrée qui me fait faire le saut, je pense au moins une trentaine de fois. J'aimerais dire les pancartes en forme d'être humain, c'est non, ça devrait pas exister, ça fait peur. C'est comme si dans le fond tu te rends compte que ce qui est là immobile à côté de toi est censé bouger, donc ton cerveau il est pas capable de comprendre qu'est-ce qui se passe. Je t'exhorte, mon ami, ne sois pas une pancarte grandeur nature qui ne bouge pas. Ne sois pas une pierre immobile qui remplit une chaise, mais sois une pierre vivante, debout, à servir. Amen. Il y en a plusieurs qui ont déjà répondu qui font ça. Deuxième image pour nous ce matin. On se rappelle donc que tu es une pierre vivante et deuxièmement, tu es un prêtre royal. Un prêtre royal, dis-le à ton voisin. Allez, tu es un prêtre royal. Ou une princesse. Non, c'est un prêtre, mais une prêtresse. Voilà, prêtresse. Toujours dans le même passage, 1 Pierre, verset 5 et verset 9, OK? On reprend ça ici. En tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Yes. Si tu as placé ta foi en Jésus, que tu es né de nouveau, tu es un prêtre royal. et nous formons ensemble un peuple saint. Et cette image-là nous renvoie à l'Ancien Testament. Depuis le début de l'humanité, en fait, il faut réaliser qu'en tant qu'être humain, nous vivons pour rendre gloire à Dieu, notre Créateur qui nous a donné la vie. C'est ce que le livre de la Genèse nous enseigne. On était destinés à lui rendre hommage et honneur par nos vies. Mais l'être humain, il s'est rebellé. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu se rendre hommage et honneur à lui-même. Il a voulu se rendre gloire à lui-même en choisissant le péché, en se rebellant. Mais pour maintenir sa relation avec l'humanité, Dieu a choisi un peuple d'Israël, pour le rendre saint, pour le mettre à part, en instaurant entre autres un système de sacrifice d'animaux pour purifier du péché. Dieu a mis des sacrificateurs, hein, des prêtres royaux, on pourrait dire, pour servir Dieu avec leur vie en offrant des sacrifices pour eux-mêmes et aussi pour le reste du peuple. Et tout ça, c'était un indice pour ce que Jésus allait faire par son sacrifice à la croix. Mort pour les péchés de l'humanité, une fois pour toutes. Est-ce que certains, si vous connaissez la Bible, vous vous souvenez que au moment de sa mort, le voile du temple où les Juifs faisaient leur sacrifice, ce voile qui recouvrait l'entrée du lieu très saint, le lieu où résidait la présence de Dieu, accessible seulement une fois par année par le grand prêtre parce que c'était trop glorieux, trop majestueux, bien, ce voile a été séparé, déchiré d'une façon miraculeuse. C'était un voile immense quand Jésus était à la croix, quand il est décédé à la croix. C'est comme si à partir de ce moment-là, Dieu disait tous peuvent avoir accès directement à ma présence à cause de Jésus. Et c'est Jésus maintenant notre médiateur, pas besoin de prêtre, pas besoin de Marie, pas besoin d'un ange ou de qui que ce soit pour accéder à Dieu. C'est possible de lui parler directement à cause de Jésus, le seul chemin vers le Père. Et maintenant, c'est plus une élite comme dans l'Ancien Testament qui devient prêtre, c'est chaque enfant de Dieu. Maintenant, tous sont prêtres. Tous sont saints parce que l'Esprit Saint de Dieu habite dans ses enfants. Okay, on fait souvent la distinction entre ceux qui sont dans le ministère, les pasteurs, les prédicateurs, les anciens, etc., et ceux qui ne sont pas dans le ministère, mais c'est une fausse conception de l'identité du chrétien. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. Tout le monde est appelé au ministère, dans différents rôles, bien entendu, mais tout le monde est appelé à participer activement à l'Église. Qu'est-ce que ça change de savoir que tu es un prêtre royal? Mais en fait, ça devrait tout changer. Tout changer dans ta manière de vivre et tout changer dans ta manière de concevoir et de vivre l'Église. Si nous sommes des prêtres royaux, une nation sainte, ça veut dire que l'Église est un culte. Un moment où on rend hommage à Dieu, où on l'honore. Et dans notre société occidentale, l'Église est plutôt centrée sur elle-même, sur l'individu, sur le fait de répondre aux besoins de chaque personne. Mais attention de ne pas oublier que l'Église, c'est d'abord un lieu où nous adorons Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en rendant gloire à Dieu, en lui rendant hommage chaque dimanche, Dieu vient répondre à nos besoins. Il le fait par sa puissance transformatrice, par sa présence. C'est ça qui est extraordinaire. Le point, c'est que si l'Église est un lieu de culte, hein, on a entendu ça pendant la pandémie, on était des lieux de culte, mais c'est un terme qui est magnifique, en fait. On devrait l'utiliser pas juste en temps de pandémie. On doit s'efforcer de faire tout ce qu'on fait avec excellence. Pourquoi est-ce qu'on porte attention aux détails à l'Église Nouvelle Vie? Qu'on s'assure que les télés fonctionnent. Qu'on s'assure que l'endroit soit beau, propre, agréable, qu'on s'assure d'être bien habillé, d'avoir une bonne attitude, de venir à l'Église avec reconnaissance, pas en bougonnant, parce que nous rendons un culte à notre Dieu, majestueux, créateur du ciel et de la terre, maître de l'univers. C'est fou, là, c'est pas rien. Voilà pourquoi on fait tout avec excellence, pour être digne de notre fonction de prêtres royaux qui rendent un culte à leur Dieu. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord? Yes? Amen. J'ai entendu plusieurs fois des gens dire que l'Église Nouvelle Vie, c'était un spectacle, OK? Pas nécessairement ici, plutôt à Longueuil, avec les milliers de personnes, l'estrade, les lumières, la musique. pour me rendre compte que la majorité des personnes qui pensent qu'une nouvelle vie est un spectacle, en fait, c'est souvent des spectateurs. C'est souvent les gens qui font le moins de choses dans l'Église qui vont apporter cette critique-là. Ce qui va faire la différence dans la façon dont tu vois l'Église, c'est pas si elle a un gros budget lumière, c'est pas sur des choses extérieures, c'est de la façon dont toi, tu te vois, qui va définir la façon que tu conçois l'Église. Si tu te définis inconsciemment ou consciemment comme un spectateur, un consommateur, tu vas finir par voir l'Église soit comme un spectacle où tu donnes ta note critique à la fin de la réunion. « Ouais, Julien avait l'air un peu fatigué pour la louange. 7 peut-être sur 10. Ouais, prédication, moi j'aime mieux quand c'est Julien qui prêche. 7 sur 10, je dirais. Bon, fait que c'était correct, c'était correct. » On rit, mais des fois ça ressemble à ça. Ou encore comme un magasin qui doit répondre à tes besoins en tant que client. Et comme j'ai dit, l'Église est là pour répondre aux besoins. Aussi, Dieu il est là pour répondre à nos besoins, mais là, c'est l'ordre inverse. On vient d'abord adorer notre Dieu. La parole dit que tu n'es pas un spectateur, tu n'es pas un consommateur, tu es un prêtre. C'est fou! L'Église, c'est pas un spectacle, c'est un lieu de culte où tu es appelé à y prendre part activement. Et sachant ça, ben chantons, ça peut être de toutes sortes de façons. Chante comme un prêtre royal quand il y a de la louange, au lieu d'être comme ça, en forme de pancarte en carton d'être humain. Habille-toi comme un prêtre royal! On sait pas qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais on comprend. Légèrement. Et l'attitude d'un prêtre royal quand tu viens à l'Église. Prends ton rôle de prêtre. Et ce qui est extraordinaire quand tu comprends que tu es prêtre, puisque c'est ton identité entière qui est en jeu, non seulement tu vas être actif le dimanche matin, mais ta nature, ton identité va te suivre partout. C'est ton identité. Et tu vas commencer à vivre pour rendre gloire à Dieu comme un prêtre. Les prêtres à l'époque, les curés avaient leur petit collet, mais pas à l'époque. Non, ils l'ont encore, là. Pardonnez-moi. Il y a encore, mais on en voit moins qui se promènent, mais c'est ça, ils se promenaient, puis tu sais que c'était un curé, tu voyais que c'était un prêtre et tout, ben soyons ça. Et n'ayons pas un petit col blanc, mais ayons une lumière, brillons dans notre ville, brillons partout où on va comme un prêtre. Fais la vaisselle avec excellence. Amen. Passe du temps avec tes enfants avec excellence, pas en bougonnant. Veille sur ton témoignage, c'est ce que ça veut dire aussi. Vivre pour la gloire de Dieu. Tu es un prêtre. Amen. C'est vrai, crois-le, c'est la parole de Dieu qui le dit. Notre troisième image, c'est celle de l'apôtre Paul qui définit l'Église comme étant un corps. C'est l'image peut-être qu'on voit le plus souvent. Un corps dont chacun est une partie et Christ est la tête. Tu es donc une pierre vivante, un prêtre royal et une partie du corps. La main, on l'oubliera pas, hein? La petite main. Tu es une partie du corps. Lisons ensemble Romains 12, verset 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Regardez à quel point les trois images sont liées l'une aux autres. Si tu es un prêtre, c'est que tu offres des sacrifices. Et qu'est-ce que tu offres en sacrifice à Dieu? Toi-même. Tes dons, un sacrifice vivant. Tes dons, tes talents, une pierre vivante, un sacrifice vivant. Voici ce que tu offres à Dieu. C'est ça le culte que nous rendons à Dieu. Et Paul poursuit en disant, ceci au verset 4 à 6. « De même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Paul fait la comparaison de notre corps qui a plusieurs membres, mais qui ne forme qu'un. De même, l'Église est composée de plusieurs personnes ne formant qu'un seul corps. Chaque membre dans le corps a une fonction. Chaque personne dans l'Église a un rôle à jouer, une place à prendre. Savais-tu que L'être humain est composé de 30 parties du corps, 30 organes internes, 32 dents, 206 os, plus de 3000 articulations, 1500 km de nerfs, et 656 muscles. Okay? Chacun de ces éléments-là ont une fonction particulière. Chacun est là pour une raison, pour une chose précise. C'est vraiment fascinant. Et le Dieu qui a créé notre corps, ben c'est le Dieu qui a créé l'Église, qui a tout créé. Certains ont besoin d'entendre ceci. Dieu t'a créé avec une intention. Il y a une raison pourquoi tu es là, sur la terre. Il t'a créé d'une façon unique, avec une ou plusieurs fonctions qu'il veut que tu occupes. L'apôtre Paul ne dit pas « si tu as des dons, mets-les au service de Dieu et des autres ». Non, il dit « nous avons des dons différents ». Tu as des dons, tu as des capacités, des compétences, des talents que Dieu t'a donnés et qu'il veut que tu utilises pour ta vie, pour son Église. Et Paul poursuit en donnant 7 exemples de dons à partir du verset 6. Et nous avons des dons qui diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée. Est-ce le don de prophétie? Qu'on l'exerce en accord avec la foi. L'un a-t-il le don du service? Qu'il serve. L'autre, celui d'enseigner, qu'il enseigne. Tel autre, celui d'exhorter, qu'il exhorte. Que celui qui donne le fasse avec empressement, celui qui préside avec zèle, celui qui exerce la miséricorde avec joie. En d'autres termes, premièrement, Paul veut que nos actions concordent avec les dons que Dieu nous a donnés. Tu as le don d'enseignement, enseigne. Tu as le don du service, sers. Tu as le don d'encouragement, encourage. Bref, t'as un don, exerce-le. C'est fou, c'est pas plus compliqué que ça. Et deuxièmement, Paul nous encourage à mettre nos dons au service de Dieu et des autres, mais à le faire du mieux qu'on peut avec excellence. Il dit « donne avec empressement, préside avec zèle, aide les plus démunis avec joie. » Bref, exerce ton don de la meilleure façon que tu peux le faire. Et je veux t'encourager ce matin à mettre au profit de Dieu et des autres les dons que Dieu t'a confiés et de le faire avec excellence. Et si tu veux répondre à cet appel, je t'encourage à le faire. Je t'invite à te rendre au quartier général, juste ici à l'arrière, pour remplir un formulaire d'implication à la fin de la réunion. Et on parle souvent de besoins quand on demande aux gens de s'impliquer dans l'Église. Et on fait des annonces pour dire qu'on manque de moniteurs à NV Junior, et pour être honnête, il en manque, ma foi. Mais j'aimerais que tu le vois autrement. J'aimerais qu'on le voit en tant qu'Église, j'aimerais qu'on le voit autrement. J'aimerais qu'au lieu de concevoir les besoins de l'Église comme des besoins à combler, on les conçoive comme une place que quelqu'un doit prendre. Puis pas n'importe quelle place, une place préparée par Dieu intentionnellement pour quelqu'un. Ça change tout. Ça change tout. Parce que c'est peut-être toi, cette personne-là, qui doit combler, qui doit prendre cette place-là. Il y a une place pour toi parce que Dieu t'a créé intentionnellement avec des dons, des capacités, des compétences qu'il veut que tu mettes au profit de son Église, au profit des autres et au profit aussi dans le reste de ta vie. Dans ton choix de carrière, dans tout ce que tu entreprends, tu peux mettre tes dons au profit de Dieu et des autres. Pendant que les musiciens s'avancent, voici le formulaire que vous allez retrouver au quartier général, donc à la table derrière. J'aimerais te dire qu'il y a une place pour toi à l'accueil. Si tu as un beau sourire, viens te servir à l'accueil. Il y a une place pour toi au kiosque d'information si tu veux aider les gens, répondre à leurs questions, être là pour les accueillir, être là pour les assister pour les dons en ligne. Il y a une place pour toi. Il y a une place pour toi à l'espace bienvenue pour accueillir les nouvelles personnes qui nous visitent pour la première fois, les accueillir, en prendre soin, connecter avec eux, les aimer. Prier aussi. Il y a une place pour toi si tu veux prier puis prendre le temps de prier avec les gens à la fin de la réunion pour eux, pour leurs besoins. Il y a une place pour toi en tant qu'animateur de petits groupes. On veut des petits groupes partout dans Charlevoix. On va en prendre tant qu'on peut, tant qu'il y a des animateurs, on en veut. Il y a une place pour toi pour l'ABC de la foi, pour accompagner pendant 4 semaines un nouveau chrétien dans la foi. Il y a une place pour toi si tu veux faire ça. T'es un chrétien mature, t'es un chrétien qui a quelques années d'expérience. Réponds, il y a une place pour toi. Il y a une place pour toi pour un groupe croissance, pour aider les gens à grandir. Il y a une place pour toi à la technique. Hein? Vous l'avez vu, il y en a de la place en masse. Pour vrai, il y a une place pour toi. Si c'est des choses que tu fais, que tu es capable de faire, viens. Il y a une place pour toi à la projection. Comme photographe, comme musicien, il y a une place pour toi. Il y a une place pour toi pour organiser les événements, pour faire la logistique. Il y a une place pour toi pour assurer la sécurité, pour distribuer la communion quand on prend la communion en église. Il y a une place pour toi pour faire le ménage. Il y a une place pour toi pour faire le ménage. Maintenant, on n'a plus d'installation et désinstallation à faire, mais on doit faire le ménage, OK? Il y a une place pour toi pour l'espace café, parce qu'on va avoir un espace café bientôt où on va servir du café à partir de 9h30 le dimanche matin. Il y a une place pour toi. Et il y a une place pour toi aussi avec les enfants, pour servir auprès des enfants, pour vraiment avoir ce ministère auprès d'eux en tant que prêtre. Prends ta place. Prends ta place dans l'Église, debout, à servir Jésus. Repense à toutes les parties du corps que Dieu a créées, chacune pour une fonction bien précise. C'est la même chose pour toi. Dieu te crée avec des dons. Intentionnellement, il y a un plan pour ta vie. Il a un plan pour ta vie. Et il y a un espace blanc aussi à la fin de... Un petit espace blanc ici, là. Tu peux écrire ce que tu veux après ça. Si tu veux servir Dieu avec quelque chose d'autre que ce qui est écrit ici, écris-le. Écris-le. Parenthèse, une église en santé, c'est une église où le pasteur a de moins en moins de choses à faire parce que tout le monde prend une part active à la vie d'église. Alors, inscris-toi. Inscris-toi à la fin, à la table. Et je veux conclure avec ceci. Si tu as vécu ton enfance dans les années 90, possiblement que, comme moi, ton film préféré, c'était Le Roi Lion. Est-ce qu'il y en a? On peut lever la main et dire oui, oui. Je sais qu'il y a eu des remakes. En vrai, non, je refuse. Moi, c'est vraiment mon film préféré. J'aime les animaux, donc j'aimais tous les films avec les animaux. Mais c'est un film pour enfants, mais il y a vraiment des grandes vérités, honnêtement. C'est quand même assez profond. Il y a même le deuil et tout. C'est quand même assez intense. Mais en gros, c'est l'histoire de Simba, c'est un lionceau. C'est le fils du roi. Le fils du roi, le roi lion, le roi de la savane. Et il va s'exiler dans la jungle pendant plusieurs années avec ses deux copains, loin de sa meute, parce qu'il croit être responsable de la mort de son père, alors que finalement, c'est pas de sa faute. Mais la raison pour laquelle il va retourner, prendre la place qui lui revient, une fois adulte, c'est lorsque quelqu'un va lui rappeler qui il est vraiment. La fameuse phrase « N'oublie pas qui tu es » dans l'écho et tout, ça vient de ce film-là. Mais Simba a dû se rappeler qu'il était le roi pour retourner prendre sa place et assurer sa fonction. Se rappeler son identité lui a permis de reprendre sa place. Je veux terminer avec cette parole pour ceux et celles qui se sentent pas capables de prendre ou reprendre leur place dans l'Église. Une parole pour ceux qui vivent soit des contraintes psychologiques ou physiques, soit à cause de la maladie, de l'âge. Une parole pour ceux qui pourraient croire qu'ils n'ont rien à offrir ou qui sont inutiles. Une parole pour ceux qui auraient peur de faire des erreurs, de ne pas être à la hauteur, ou pour ceux qui en ont déjà fait des erreurs par le passé ou qui ont été blessés par l'Église et qu'ils n'osent plus maintenant prendre ou reprendre leur place dans l'Église. Plusieurs ont besoin d'entendre cette phrase résonner dans leur cœur et leur esprit. N'oublie pas qui tu es. C'est vrai. N'oublie pas qui tu es. C'est ce que j'ai voulu faire par ce message. Je nous ai rappelé qui on était. Une pierre vivante, essentielle à la fondation de l'Église. Tu es un prêtre royal, choisi par Dieu. Jugé digne à cause de ta foi en Jésus. Tu es une partie du corps créée intentionnellement avec une fonction spécifique et essentielle. Si tu as besoin de te rappeler qui tu es, je veux te demander de faire un pas de foi ce matin. Faire un pas de foi en allant t'inscrire au quartier, généralement, malgré la peur, malgré l'inconfort, malgré les obstacles que tu perçois devant toi. Et c'est alors que tu vas reprendre ta place que Dieu va opérer le miracle dans ta vie. Alors que tu reprends ta place, Dieu va opérer la guérison et la transformation. Il va te reconstruire, il va te rebâtir. Rappelle-toi les paroles de l'apôtre Pierre en tant que pierre vivante. Laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Laisse Dieu te rebâtir. Laisse Dieu faire le travail. Mais toi, réponds à l'appel. Prends ta place. Fais ce pas de foi ce matin. J'aimerais prier pour ceux qui ont besoin de reprendre leur place. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je te prie pour que tu parles au cœur, Seigneur, au cœur meurtri, Seigneur. Tu vois les cœurs de chaque personne. Tu vois la pression que certaines personnes se mettent. Tu vois, Seigneur, les blessures qui ont été faites par le passé qui font en sorte que soit il y a un manque d'estime, soit il y a un manque d'amour, Seigneur, d'amour propre. Seigneur, je te prie de guérir, de venir transformer, de venir vivifier ce matin. Viens montrer qui nous sommes. Viens montrer à tes enfants qui ils sont en toi, Seigneur. Ce sont des enfants aimés, choisis, Seigneur, créés par toi. Le grand Dieu qui ne fait pas d'erreur. Tu ne fais pas d'erreur, Seigneur. Dis-le, Seigneur, par ton esprit, à ceux qui ont besoin de l'entendre. Jésus, viens faire ton œuvre transformatrice ce matin. Viens faire ton œuvre transformatrice. Dans ton nom, Jésus. Pendant ce temps de louange, demande à Dieu de te convaincre de qui tu es en lui. Qui tu es. Que tu sois convaincu dans ton cœur et ton esprit. Qu'il te montre aussi c'est quoi tes dons, c'est quoi tes capacités qui puissent t'inspirer. Qui peut t'inspirer où est-ce que tu dois servir dans l'Église et dans ta vie.